IDFM Radio, le média valdoisien.
Sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue sur votre radio valdoisienne en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Ensemble pour les 90 minutes qui vont suivre. Merci d'être avec nous et belle matinée. Économie sociale et solidaire, découverte du patrimoine, transition écologique, recrutement, salon effervescence. Ce matin, mardi 13 février, journée mondiale de la radio, l'économie en direct va vous emmener découvrir toutes ces dynamiques collectives qui font appel à la créativité et au savoir-faire de chacun. Et pour mon plus grand bonheur, encore des connexions pourtant seulement dues au hasard et que j'ai moi-même découvertes en préparant ce dossier. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Bittel. Bonjour Sandra.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être au rendez-vous de l'économie en direct.
Merci, merci à vous.
Conseillère entrepreneuriat engagée chez Initiative 95-78, vous nous expliquerez votre rôle pour établir ces liens d'échange qui visent à avoir un impact positif sur la société.
Tout à fait.
À vos côtés, Jérémy David. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir à nouveau dans nos studios. Secrétaire du Cercle Beaumontois du Patrimoine, administrateur au groupement Rempart Île-de-France, avec nous ce matin pour nous présenter, comme vous savez si bien le faire, une conférence qui s'annonce passionnante.
Absolument.
À vos côtés, Aurélie Tourette. Bonjour Aurélie.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir.
Merci.
Fondatrice d'EcoActitude, vous prônez le mode de vie zéro déchet, do it yourself, et nous avons hâte d'en savoir plus. Avec nous également, car vous serez exposante le 19 mars au Salon Effervescence. Et Marco Mpossi. Bonjour Marco.
Bonjour Jacqueline.
Fondateur de Prit, une entreprise spécialisée dans le recrutement, créée dans le but de réduire le taux de chômage en France et aussi réussir à aider les entreprises et les candidats. Tout un programme dont vous nous donnerez la recette dans quelques instants. Et comme Aurélie, vous participerez le 19 mars au Salon Effervescence. Et bien voilà, bienvenue à tous les quatre et merci d'être les invités en direct de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Et tout de suite, je me tourne vers vous, Sandra Bittel, donc conseillère entrepreneuriat engagée chez Initiative 95-78. Ici, chez IDFM, déjà, on connaît très très bien Initiative, hein, pour plein de raisons. Nous connaissions déjà plusieurs facettes, hein, de cette structure, et puis rencontrer beaucoup d'acteurs bénéficiaires des dispositifs en lien avec l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Mais jamais encore ce sujet n'avait été traité avec une spécialiste telle que vous, je veux dire de l'autre côté de la barrière. Donc, votre parcours académique, Sandra, vous avez un master en sciences commerciales et financières, orientation pays en développement. Déjà, pour commencer, comment se retrouve-t-on chez Initiative 95-78?
Ouh, c'est long du coup. Alors, pour commencer, il y a toujours eu le fil rouge du financement, du crédit. J'ai commencé un petit peu dans la banque avant de m'orienter vers la microfinance à l'international. Puis pour arriver à Paris sur le microcrédit personnel. Et pour finir, pour le moment, du coup, chez Initiative, à proposer des solutions de financement spécifiquement au secteur associatif et au secteur de l'économie sociale et solidaire.
Très bien. Alors, rappelez-nous, parce que c'est important, même si je suis sûre que plein d'auditeurs connaissent bien Initiative 95-78, mais rappelez-nous ce qu'est Initiative 95-78.
Donc, Initiative, déjà, c'est une association. Et c'est une association qui a pour volonté de promouvoir l'emploi sur le Val-d'Oise en accompagnant et en finançant des créateurs d'entreprises ou des créatrices d'entreprises, et qui dispose également d'une offre bien spécifique pour le secteur associatif et le secteur des structures qu'on appelle engagées.
C'est ça.
C'est comme ça qu'on l'appelle au niveau d'Initiative.
Oui, on sait que l'économie sociale et solidaire, donc des structures qu'on appelle engagées ou faisant partie de l'ESS, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Voilà. Tout à fait. Oui, oui.
Et pour rappel, donc l'économie sociale et solidaire, j'ai pu noter rassemble donc des entreprises qui cherchent à concilier la solidarité, la performance économique et l'utilité sociale. Et j'ai découvert que c'était un acteur économique de poids, puisque ça représente 10% du PIB et près de 14% des emplois privés en France.
En effet, beaucoup d'emplois sont situés du côté de l'économie sociale et solidaire, que ce soit les associations ou d'autres structures ayant un réel objectif du coup social.
C'est ça. Et donc pour donner d'autres chiffres, c'est un secteur qui compte environ 200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés. Donc, on comprend pourquoi Initiative 95-78 s'intéresse à ce pan de l'économie.
Tout à fait, voilà.
Donc vous, votre mission, Sandra, au sein de Initiative 95, quelle est-elle ?
Alors moi je suis plus spécifiquement, donc comme je vous disais, sur toute la partie financement,
oui.
Même s'il n'y a pas que, mais c'est essentiellement la partie financement, et donc c'est de recevoir des structures qui ont des besoins de financement, d'évaluer leurs besoins, de voir avec elles si ça peut correspondre si le besoin de financement est remboursable dans le cadre du chiffre d'affaires qu'ils génèrent ou des revenus dont ils disposent. Et plus spécifiquement, du coup, pour des associations ou des structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a des solutions spécifiques pour ces structures-là.
Donc, vous avez vraiment besoin d'avoir l'aspect psychologique est quand même important, parce que quand vous dites que vous devez alors il y a les chiffres bien sûr, mais vous devez juger de la pérennité finalement de l'entreprise que vous allez aider. Ça, c'est une grosse responsabilité.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, il y a une partie qui est clairement liée aux chiffres, mais il y a aussi une partie d'humain, de percevoir le caractère de la personne, sa façon de réagir, de répondre aux questions. La facilité avec laquelle la personne peut répondre, c'est pas parce qu'on ne peut pas répondre que ça pose problème.
Oui.
C'est la manière dont on va réagir aussi à ces questionnements qu'on va réaliser.
C'est ça, parce que vous, après, vous devez donc rendre compte auprès d'autres personnes de la structure, et puis je crois que ça se termine par un comité qui
exactement. Ce qu'on fait en général, c'est que une fois qu'on estime que le dossier est présentable, on réalise une note, un document qui va pouvoir être envoyé à un comité qui est composé de bénévoles, experts comptables, banquiers, assurances ou autres, et eux vont challenger le porteur de projet ou la structure qui désire être financée pour de la même manière que moi je l'aurais fait avant en fait, mais ils auront parfois du coup vu leur spécificité, ils peuvent avoir des questions aussi un peu plus pointues.
Bien sûr.
Et donc challenger cette personne pour voir comment elle répond, et au final c'est bien ce comité qui prend la décision.
Donc c'est ça. Il y a 5 critères hein, qui permettent d'évaluer l'engagement d'une structure. Vous nous les rappelez ?
Oui. Alors, comme je le disais, au sein d'Initiative, on parle de structure engagée, ce qui est plus large que l'économie sociale et solidaire classique. On va questionner l'engagement des structures sur 5 critères. Le premier, c'est l'impact environnemental. Donc, est-ce qu'on a une activité qui a un objectif de réduire son impact, de réduire l'impact environnemental, je ne sais pas, du plastique par exemple, de réduire les plastiques, de recycler le plastique. Est-ce qu'on fait au sein de sa structure, même si on n'a pas une activité ayant un impact environnemental fort, est-ce qu'on fait des efforts
pour réduire
les déchets qui sont générés, par exemple. Il y a tout ce qui est lié à l'impact social. Donc sur impact social, on va être lié par exemple à tout ce qui est les tiers-lieux, réduire les inégalités sociales, créer du lien social, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. On va avoir l'impact territorial, et là c'est tout ce qui va traiter du dynamisme du territoire, tous les liens qu'on va pouvoir créer, bien par exemple ici avec toutes les structures que nous sommes, on est vraiment dans un cas typique où on met du dynamisme territorial. On parle aussi de dynamisme économique, hein, c'est pas que
bien sûr,
voilà,
bien
relationnel, sûr, mais ça part aussi de ce côté-là. Il y a l'impact en termes d'emploi. Combien d'emplois est-ce qu'on va créer? Quel type d'emploi? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'emploi précaire, de l'emploi plus stable? Est-ce qu'on va former les personnes? Est-ce qu'on envisage plutôt des salaires plutôt bas? Voilà. Quel genre d'emploi la structure va pouvoir générer? Sachant que il y a toujours ce côté aussi territorial, hein, c'est de savoir.
Bien sûr, plutôt favoriser le territoire en termes d'emploi.
Bien sûr. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne la gouvernance. Et dans la gouvernance, on va mettre aussi bien la lucrativité. Enfin, du coup, est-ce que notre objectif, c'est plutôt de rapporter un maximum d'argent à des actionnaires, ou c'est de permettre de redistribuer ça aux salariés ou même au sein de l'entreprise pour qu'elle se renforce, pour qu'elle développe de nouveaux projets. Et le deuxième point, du coup, au sein de la gouvernance, c'est plutôt l'implication des salariés, des parties prenantes. Est-ce qu'il y a une seule personne qui décide, ou est-ce qu'on essaye d'avoir une multiplicité d'interactions,
une synergie entre chacun.
Tout à fait. Que ce soit les salariés ou les parties prenantes en contact avec la structure. Donc ça, ce sont les 5 points sur lesquels on va questionner les structures et les porteurs de projets pour voir comment ils se situent sur base de ces 5 critères. L'objectif, c'est pas d'être parfait dans les 5 du tout.
Non, c'est pas.
Mais c'est d'avoir au moins un critère qui soit très solide. Et pour nous, en tant que conseillers, quand on va discuter avec les personnes, c'est de ressentir que c'est vraiment l'objectif premier de la structure. Voilà, mon objectif, c'est pas juste de créer une entreprise, c'est je veux avoir un impact sur la société, un impact positif sur un de ces points. Et c'est comme ça que je désire créer mon entreprise ou développer mon entreprise.
Je pensais en vous écoutant que le critère emploi sur le territoire rejoint du coup un petit peu l'impact environnemental, puisque si on n'a pas besoin d'aller travailler très loin de chez soi,
permet d'éviter des émissions de voitures.
Absolument. Sandra, alors on continue sur cette mission qui est la vôtre. Quels sont les avantages de ces solutions de... Alors, vous avez des solutions de financement, hein, vous nous l'avez dit. Ce sont des prêts ou des garanties pour des prêts bancaires. Quels sont les avantages de ces solutions de financement?
Alors, pour moi, il y a déjà dans un premier temps le fait qu'on va intervenir en parallèle de la banque. Mmh. Ça va réduire un peu le risque que prend la banque ou que va prendre la banque sur le besoin de financement de la structure. Ce qui les rend moins frileux. Enfin, voilà, il y a aussi cet aspect-là de se dire, on est à plusieurs, donc du coup, on se sent quand même un peu plus solide, on peut plus facilement intervenir. Donc clairement, ce cofinancement, au travers les garanties, ça aide aussi de pouvoir donner une garantie pour un prêt bancaire. Après, on a surtout à l'heure actuelle, avec le marché des taux d'intérêt qui est assez haut, c'est vrai que nos taux d'intérêt sont moindres. Sachant que pour les associations, on peut avoir des prêts à taux zéro. Donc, on a clairement un vrai avantage à ce niveau-là. Maintenant, je pense que l'autre principal avantage, c'est surtout le différé de remboursement. C'est-à-dire qu'on va permettre aussi à la structure de ne pas commencer à rembourser tout de suite, mais de commencer, si c'est une structure en création, de commencer à générer des revenus, de générer de la trésorerie avant de commencer à rembourser. C'est pas toujours simple quand on crée une entreprise de rembourser
d'avoir tout de suite des grosses échéances. Oui.
Ouais. Donc pour moi ça c'est vraiment un élément très important. Et le dernier point qui est également en lien avec le cofinancement des banques, c'est qu'on va pouvoir intervenir nous prioritairement sur de la trésorerie. Les banques en général sont plutôt enclines à financer de l'investissement. Du matériel ou enfin voilà quelque chose de concret et pas juste mais je vais avoir un décalage de trésorerie,
le courant quotidien
exactement entre le moment où je dois acheter mes fournitures et le moment où mon client va me payer, il y a un laps de temps et j'aurai besoin de financer ce qu'on appelle ce décalage de trésorerie. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans notre positionnement avec la banque.
Oui, on comprend que ce sont des avantages on va dire très vertueux. Je ne sais plus si je ne crois pas que vous l'ayez dit, Sandra, mais Initiative est issue de France Active.
Oui, tout à fait.
Et donc voilà un organisme de financement. Finalement.
Exactement. Donc Initiative, en fait, on est issu de deux réseaux, le réseau Initiative et le réseau France Active. Le réseau Initiative étant plutôt pour les créateurs d'entreprises avec les prêts d'honneur. Et le réseau France Active propose, lui, donc au niveau national, et il est présent sur tous les départements. Donc même si vous n'êtes pas du Val d'Oise, ça peut
ça
aussi
vous
intéresser.
Ouais.
Et il va proposer des solutions de financement de celles dont je viens de parler, ainsi que les garanties pour les prêts bancaires.
Écoutez, j'espère que vous avez convaincu tous nos auditeurs qui seraient en recherche de financement de faire appel à Initiative 95-78. Je vous propose qu'on écoute un petit peu de musique, Sandra, et puis on continue sur les besoins de la profession au niveau du mentorat, puis surtout du programme dont vous voulez nous parler dans quelques minutes. À tout de suite.
Merci. Thank you.
l'économie en direct et ce matin je suis en compagnie de Sandra Bittel, conseillère entrepreneuriat engagée chez Initiative 95-78, Jérémy David, secrétaire du Cercle Beaumontois du Patrimoine, administrateur au groupement Rempart Île-de-France, Aurélie Tourette, fondatrice d'Eco Actitude, exposante le 19 mars au Salon Effervescence, et Marc Wempossi, fondateur de Prit, et comme Aurélie, participant le 19 mars au Salon Effervescence. Sandra Bittel, je reviens vers vous pendant la pause, la musicale, on a évoqué le fait que on a très souvent des invités qui sont passés par Initiative 95-78 et là c'est le cas, donc j'ignorais que Marco Mpossi était aussi passé par cette structure, donc voilà, on est très content de pouvoir comme ça faire la promotion d'Initiative 95-78. Donc votre profession a des besoins, vous recherchez toujours des mentors pour accompagner des créateurs, des nouveaux créateurs d'entreprises. Parlez-nous de cette spécificité de mentor.
Alors du coup, les structures qui sont financées par Initiative vont pouvoir demander, si elles le souhaitent, à être parrainées. Donc on les a appelés mentors, mais c'est des sortes de parrains ou de marraines. Des personnes qui ont des compétences qui peuvent être très diverses. On va être aussi bien sur des personnes qui ont également créé une entreprise que des personnes qui ont des compétences en communication, en expertise comptable, en communication numérique. Enfin, ça peut être très large. Et elles sont d'accord, du coup, pour bénévolement suivre une ou deux ou trois personnes. Selon le temps qu'elles désirent
consacrer
à cette activité. Et l'objectif, c'est pas de faire à la place, donc c'est vraiment d'intervenir en disant, je vous écoute, on échange, j'essaye de vous donner des idées, des pistes. Et puis c'est de toute façon au porteur de projet ou à la structure de faire ses choix. Mais ça permet d'avoir un interlocuteur avec qui échanger pour faire avancer son projet ou sa structure.
Partager son expérience.
Exactement.
Donc vous êtes toujours en recherche. Donc là, vous voulez faire un appel.
Des personnes qui sont intéressées.
Nos auditrices et auditeurs.
Tout à fait. Si des personnes sont intéressées de donner un peu de leur temps pour accompagner des projets en création ou des structures qui existent déjà mais qui ont besoin de, parce que le créateur est tout seul ou le dirigeant est tout seul, qui ont besoin de pouvoir échanger, de pouvoir c'est pas se challenger, mais quelque part un petit peu aussi, c'est de pouvoir réfléchir à deux sur certaines situations de temps en temps. On n'est pas sur des rencontres quotidiennes.
Hein. Bien sûr.
C'est quelque chose de moins fréquent, mais c'est du coup de pouvoir interpeller quelqu'un quand on a des questions aussi, et de pouvoir avoir des échanges. Peut-être mensuellement avec la structure.
La structure, très bien.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter.
Et alors, vous avez surtout c'est un petit peu le but de votre venue, hein, Sandra, aujourd'hui. Vous avez une actualité importante à nous annoncer, même si nous, chez IDFM, on a commencé à en parler aussi. Mais voilà, je vous laisse nous révéler cette actualité.
Alors, on a le programme Émergence ESS, qui est un programme qui vise à accompagner des projets en création durant une période de 9 mois. Et donc, ce programme a été lancé et court jusqu'au 25 février. Donc, l'appel à candidature, on peut encore y répondre jusqu'au 25 février. Et il y a cet accompagnement va consister en coaching individuel, donc c'est des réunions mensuelles avec les porteurs de projets pour pouvoir les faire avancer, les aider à réseauter sur leur projet, mais également des ateliers collectifs sur des thèmes très divers et qui vont dépendre aussi des besoins du groupe. Je parle de groupe, donc justement, chaque groupe, on va avoir deux groupes sur le Val d'Oise et on a une petite dizaine de porteurs sur chaque groupe. L'objectif aussi, c'est de créer de la cohésion dans ce groupe, de s'appuyer l'un sur l'autre. J'ai déjà vu des groupes qui ont fusionné, du coup, enfin pas des groupes, mais des personnes qui ont fait fusionner leurs projets parce que en cas d'un recyclage par exemple, une ressourcerie, et une autre personne qui voulait vendre des livres d'occasion, ben, à un moment donné, ils se sont mis ensemble.
Ils se sont rejoints, oui.
Tout à fait, ce qui permettait de porter le projet, enfin d'avoir plus d'énergie
mieux,
pour porter le projet. Donc tout ça c'est le programme Émergence. C'est un programme qui est régional, que nous on porte sur le Val d'Oise. Et donc on est pour le moment en plein appel à candidature. Si vous avez un projet, que vous aimeriez être accompagné pendant cette période de, donc on est sur 9 mois, hein, de mars, avril jusqu'à novembre, décembre en gros, n'hésitez pas. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous orienter pour avoir plus d'informations. C'est emergence-idf.fr. Donc, ça vous donne pas mal d'informations. Il y a des webinaires qui sont organisés, qui permettent de réfléchir, enfin qui permettent de mieux comprendre et de poser des questions sur tout ce qui va se passer. Donc voilà, et on est bien sur un programme donc ESS. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on est aussi sur des projets qui doivent avoir un certain engagement aussi de nouveau pour avoir un impact sur la société, tel qu'on en a parlé tout à l'heure.
C'est ça, les cinq impacts dont vous nous avez parlé tout à l'heure: environnemental, social, territorial, emploi et gouvernance.
C'est ça.
Ce qui veut dire, Sandra, que même si, par exemple, imaginons que j'ai une idée qui me vient et je me dis mais pourquoi pas en faire une entreprise, je peux participer à ce programme Émergence, où il faut vraiment que quelque chose soit déjà un peu construit? Est-ce que juste avoir une idée en disant voilà?
Alors juste l'idée, c'est peut-être un petit peu
léger. C'est juste, oui.
Mais y avoir déjà quand même bien réfléchi, juste l'idée, ce sera sans doute un petit peu léger. Mais avoir déjà quand même réfléchi au projet, avoir déjà eu quelques pistes, avoir fait quelques rencontres, et pouvoir aussi donner du temps au
bien
programme,
sûr,
parce
bien
qu'on
sûr.
Va pas pouvoir fonctionner si on est à temps plein sur une autre activité professionnelle par exemple. Donc il faut pouvoir consacrer aussi un certain temps quand même au programme et à son projet en particulier,
à l'émergence de ce projet. Merci beaucoup Sandra,
merci
c'était très
vous.
Clair. Merci pour cette piqûre de rappel au niveau de l'initiative 95-118 et puis des critères de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et puis félicitations à cette structure qui œuvre toujours dans ce secteur en émergence, mais pas que.
Merci beaucoup.
Merci Sandra. Quelques minutes de pause et on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite.
D'ailleurs, je suis quand je perds le nord, que je perds le fil pour pas te donner tort. Je pensais répandre l'amour, te donner mon cœur, mais t'es comme tous les autres, tu fais pas face aux peurs. Les gens s'aimaient pour de vrai, y'avait pas de vipère qui voulait me piquer. Moi je passe les draps, moi je pose les armes pour mieux riposter.
Et avec moi tout est frais.
Retourner que tu m'abandonnes, toujours à donner une seconde chance. Je sais tout n'est pas rose, mais j'ai pas d'ordonnance. Ma tête blonde repère les regards qui me sidèrent, de ceux qui m'ont préjugé et qui veulent en abuser. Méfie-toi des apparences, peut-être que cette tête te pense à comment tout casser.
Mais arrête, joue pas trop avec
C'est l'économie en direct et c'est sur IDFM Radio, en FM, Web Radio, DAB+, et sur notre appli. Avec nous ce matin, Sandra Bittel, conseillère entrepreneuriat engagée chez Initiative 95-78, Jérémy David, secrétaire du Cercle Beaumontois du Patrimoine, administrateur au groupement Rempart Île-de-France, Aurélie Tourette, fondatrice Eco-Actitude et exposante le 19 mars au salon Effervescence, et Marco Mpossi, fondateur de Prit et comme Aurélie, participant le 19 mars au salon Effervescence. À présent, coup de projecteur sur vous, Jérémy David. Donc, merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Vous, Jérémy David, je le rappelle à chaque fois, mais je trouve que c'est important, vous avez un Master 2 de Lettres Modernes à l'Université de Paris. Vous êtes diplômé de muséologie de l'École du Louvre et surtout, vous avez un vrai talent pour nous faire voyager dans le temps. Donc, on dira jamais assez l'importance du tourisme culturel pour le dynamisme économique des territoires et l'économie locale, l'engagement bénévole pour faire vivre des sites historiques, l'appropriation de l'histoire et du patrimoine par les populations locales et la dimension sociale du patrimoine, le rôle des musées dans la société. Et vous, à travers votre dynamique dans le Cercle Beaumontois du Patrimoine et puis Rempart, vous répondez à tout ça finalement ?
Absolument, c'est vraiment l'idée qui a porté notre association, le Cercle Beaumontois du Patrimoine, qui cette année, en 2024, fête son 10e anniversaire.
Oui, bravo.
Et ça fait 10 ans qu'on essaye de travailler à utiliser ou rendre vivant le patrimoine de notre ville, Beaumont-sur-Oise, et de ses alentours, mais surtout Beaumont. Et parce qu'on s'est rendu compte, lorsque cette association a été fondée par Marie-Camille Svetovidov et Fabrice Milroux, ancien maire de Beaumont et aujourd'hui vice-président de notre association,
oui,
que le patrimoine de Beaumont était extrêmement riche, mais qu'il n'était peut-être pas valorisé à sa juste valeur. Et l'idée qu'avait Marie-Camille Svetovidov dès le départ, c'était que le Cercle Beaumontois du Patrimoine soit l'allié de la commune pour permettre de valoriser ces monuments et d'en faire un atout économique aussi pour la commune, puisque l'idée qu'il y a derrière, c'est que si on arrive à faire vivre un château, une église, un ancien hôtel particulier qui est, aujourd'hui accueille un petit musée qui est l'hôtel du Croissant, eh bien ça fait venir du monde, et si on fait venir du monde, eh bien on arrive à dynamiser une économie. C'est pas forcément aussi magique et facile que ça, mais
bien sûr, il faut constamment être sur le pont.
Tout à fait, aujourd'hui on se rend compte que le patrimoine est une thématique très très mise en avant par les pouvoirs publics et très appréciée par le public lui-même. Et quand on fait nos chantiers tous les ans, chaque été, on attire quand même pas mal de monde et on se rend compte que ce château, qui n'est pas extrêmement bien conservé, puisque c'est quand même un château de ruines, de vestiges.
Oui, mais qui a environ, puisqu'on avait fêté, vous avez fêté les 1000 ans de Beaumont-sur-Oise, donc
oui.
Il a...
En 2022, on a fêté nos 1000 ans.
Oui, oui.
Ce qui était quand même pas mal. Et à cette occasion, on avait, avec la commune de Beaumont-sur-Oise, organisé les festivités autour des 1000 ans du comté de Beaumont, qui est né en 1022. Et le château a été un peu la scène de ces grandes festivités, avec une fête médiévale qui a eu lieu au mois de mai 2022, qui a attiré quand même 12 000 personnes, ce qui est pas rien.
Oui, c'est un vrai succès, oui.
Et au-delà de ça, ça nous a permis aussi de faire connaître toutes nos actions qu'il y a autour. Et on se dit que en travaillant avec les différents acteurs du département, je pense notamment à Val-d'Oise Tourisme, l'agence Val-d'Oise Tourisme qui permet de promouvoir les activités touristiques dans notre secteur, eh bien on arrivera, je l'espère, à créer une dynamique autour du patrimoine et autour du tourisme culturel, qui est aujourd'hui pour une petite ville comme Beaumont, qui autrefois vivait beaucoup de son commerce du fait de sa position stratégique routière entre Paris et Beauvais. Aujourd'hui, c'est vraiment le patrimoine qui est sa plus grande richesse. Et peut-être que c'est par là, en tout cas nous, on y croit, qu'on arrivera à faire revenir quelques commerces dans une ville qui aujourd'hui en manque terriblement.
C'est vrai que, enfin, en tout cas, depuis que moi je fais cette émission et que je vous connais, Jérémy, je me rends compte que cet impact patrimonial est très fort à Beaumont. Et vous avez, bon, vous avez parlé de la fête médiévale, les 1000 ans. Il y a aussi le salon historique du livre, le salon du livre historique, pardon. Oui. Voilà, il y a des événements forts.
Le salon du livre historique d'Île-de-France, c'est une idée de Fabrice Milleraud, qui l'avait déjà monté il y a une trentaine d'années. Et il avait cette idée de salon du livre qui est un salon du livre à thématique historique. C'est-à-dire que des salons du livre, il y en a un peu partout. Des salons du livre historique, il y en a aussi pas mal. Mais nous, on a décidé de faire un salon du livre historique d'Île-de-France et de vraiment parler de cette histoire francilienne qui n'est pas si connue, alors que c'est probablement une des régions les plus centrales,
les plus
importantes,
les plus riches.
Enfin, je dis pas que les autres le sont pas, mais l'Île-de-France, dans notre histoire, elle a joué un rôle majeur, et en particulier le département du Val-d'Oise et l'Oise aussi, la Picardie qu'il y a autour. C'est des histoires qui sont souvent méconnues, parce que par exemple pour notre département qui est né quand même à la fin des années 60, on ne connaît pas forcément très bien son histoire, et même l'histoire de l'Île-de-France, en fait on connaît l'histoire de Paris, mais autour de Paris c'est tout de suite beaucoup moins connu. Et Paris aspire un peu tout, et nous notre ambition c'est que ce salon du livre historique d'Île-de-France met en avant toutes les richesses historiques autour de Paris. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'associations, comme celle de Pontoise, ou celle de Conflans-Sainte-Honorine, ou celle de Saint-Prix. Je pense aussi à des gens qui sont venus de Châtillon, dans le sud de l'Île-de-France, puisque on essaye aussi de faire marcher notre réseau grâce à Rempart, puisque faisant partie du groupement Rempart Île-de-France, on est en contact avec l'ensemble des associations de chantier en Île-de-France.
C'est ça. Et un salon dont moi je fais la promotion depuis 2 ans maintenant. Absolument. Et qui a beaucoup de succès. Aujourd'hui, Jérémy David, vous aviez à cœur de nous parler de la prochaine conférence qui va avoir lieu à Beaumont. Donc le titre c'est de Beaumont à Conflans. Je vous laisse nous dire ce qu'il en est.
Alors, effectivement, depuis le début, ça a été une volonté de Marie-Camille Svetovidov et aussi, je pense, des autres membres du bureau. Moi, j'étais pas au tout début de l'association, je suis arrivé un an après la fondation, mais j'ai toujours connu ces conférences. Et on a un programme de 3 conférences par an, en général pendant la saison d'hiver, et qui ont lieu le vendredi soir à 20h. Alors c'est un horaire qui peut-être changera un jour, mais pour l'instant, c'est le vendredi soir à 20h. Et cette semaine, le vendredi 16 février, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Le vendredi 16 février, on reçoit avec grand plaisir un conférencier qui s'appelle Bruno Renard, qui est historien, doctorant de l'université Caen Normandie, et qui va nous parler de la rivière Oise. Cette rivière qui est en fait un des fondements de l'identité du département du Val-d'Oise, puisqu'elle a donné son nom au département. Et le Val-d'Oise a plusieurs de ses villes les plus importantes, et je pense évidemment à Pontoise, qui sont au bord de l'Oise. Et l'Oise est une rivière centrale et a été un axe majeur de commerce depuis l'Antiquité. Puisque si on repense à Beaumont, Beaumont était déjà au bord de l'Oise durant l'époque romaine. Et quand on a fait les fouilles archéologiques dans les années 70, 80 et même avant, on avait trouvé au niveau de l'actuel, enfin en face du cimetière, au niveau du secteur du lycée, on avait trouvé un pont qui datait de l'Empire romain, et on avait même retrouvé un port qui a été utilisé très longtemps, puisqu'il y a eu non pas un, mais 3 ports à Beaumont.
D'accord.
Ça, c'est, on va l'apprendre à la conférence.
Oui.
Et il y a eu non pas un, mais 2 ponts également. Donc un pont en bois, qui est le vieux pont romain, et puis un pont en pierre, qui a été construit au Moyen-Âge par les moines de Saint-Léonore qui vivaient au château de Beaumont. Et ce pont a été un peu la source d'une prospérité économique extraordinaire pour la ville de Beaumont et le comté, puisque c'était quasiment l'un des seuls points de passage dans le coin pour traverser l'Oise. Sinon, il fallait passer par des bacs, il fallait passer par des gués. Par exemple, le pont de l'Isle-Adam n'est arrivé qu'assez tard, au XVIe siècle. Et Beaumont a vraiment grandi grâce à ce pont. Et le comte de Beaumont était tellement content d'avoir un nouveau pont en pierre qu'il a récompensé les moines en leur offrant le péage dessus.
D'accord.
Puisqu'il y avait un péage sur les ponts.
C'était vraiment un beau cadeau.
Tout à fait. Et alors, grâce à ce conférencier, j'ai appris que notre pont était 3 ou 4 fois plus rentable que celui de Pontoise. même pas mal. Mais Pontoise était une ville qui avait plusieurs ponts, mais qui avait un grand pont en pierre, qui elle aussi avait une traversée qui a rendu les marchands de Pontoise extrêmement prospères. Et Bruno Renard nous parlera d'anecdotes assez croustillantes sur les conflits qu'il y a pu y avoir entre les seigneurs et les commerçants, oui, qui n'étaient pas d'accord sur la manière de traverser l'Oise. Donc ça, vous verrez.
Oui, parce qu'on pourrait aujourd'hui même peut-être faire une conférence entre la ville de Pontoise et la ville de Beaumont, qui ont forcément été concurrentes. Pourquoi l'une a peut-être plus prospéré que l'autre dans le temps?
Alors, je ne sais pas si elles ont été concurrentes à l'époque. Elles sont peut-être concurrentes dans notre esprit aujourd'hui. Mais à l'époque, ça fait partie d'un grand écosystème économique au bord de l'Oise, puisqu'il y a un historien qui s'appelle Nicolas Sivel, qui a écrit un livre qui s'appelle La Flore de France sur les seigneurs d'Île-de-France, qui expliquait que les réseaux de pouvoir se superposent à l'hydrographie dans l'Île-de-France.
Oui, oui,
oui. C'est-à-dire que contrôler les points de passage de l'Oise ou de la Seine, c'est vraiment avoir le pouvoir, à la fois le pouvoir politique, stratégique, militaire et économique. Et Beaumont et Pontoise, en fait, quand on regarde les sources au Moyen-Âge, travaillent énormément ensemble, puisqu'il y a beaucoup de liens entre l'abbaye Saint-Martin de Pontoise et le prieuré Saint-Léonard de Beaumont. Il y a des liens entre le comte de Beaumont et les comtes du Vexin, qui ensuite ont été les rois de France. Donc, je ne crois pas une grande concurrence, mais par contre, deux villes qui, à leur point de contrôle de l'Oise, ont stimulé l'économie et ont permis le développement démographique aussi de la vallée de l'Oise. Puisque qui dit activité sur l'eau, dit aussi activité autour du pont et autour de ces points de passage, ce qui va entraîner développement de villages, irrigation pour les champs, parfois plus tard assèchement des marécages.
Oui, attractivité du lieu,
tout à
bien fait. Sûr.
Ouais, et alors, pour le pont de Beaumont, ce qui est assez intéressant, c'est que il est dans l'axe exact du château, et c'est pas hasard. Si ça vous intéresse, je ferai un podcast pour Val d'Oise Tourisme bientôt.
Ah, volontiers.
Donc là, c'est une annonce.
Ah oui.
qui parlera des comtes de Beaumont en tant que seigneur de l'Oise. Et ça a été vraiment des personnages qui, je pense, ont tout de suite vu le potentiel de cette rivière, puisque le centre de leur comté, ils l'ont mis à Beaumont, alors même que le centre du comté géographique et normalement économique, c'est Chambly. Et ils ont décidé de déplacer ça à Beaumont et de s'installer à Beaumont, très certainement à cause de la rivière.
Bien sûr, bah évidemment, c'était toujours une forêt, une rivière.
Exactement.
C'était les deux critères déterminants pour développer une ville, hein, je crois. Je vous avais prévenu qu'il était passionnant, hein, qu'on pourrait l'écouter comme ça toute l'émission, mais Jérémy, il faut qu'on avance aussi,
oui,
avec mes autres invités. Alors, je sais que vous voulez nous parler également de vos chantiers de bénévoles.
Tout à fait.
Avec Rempart, donc je vous laisse nous expliquer ça.
Alors, les chantiers que nous faisons avec Rempart, c'est des chantiers qui ont été initiés il y a 2 ans, justement à l'occasion des 1000 ans, mais bon, on avait préparé ça depuis bien longtemps. C'est des chantiers de bénévoles sur le château, qui vise à restaurer et valoriser le château, le rendre plus accessible, le sécuriser aussi pour le rendre plus visitable, et puis essayer de consolider ce qui existe encore, puisque, je vais pas vous mentir, si vous venez visiter le château de Beaumont, faut pas s'attendre à un grand château, c'est pas Versailles, c'est même pas Loches ou Dan, c'est vraiment quelque chose de très cassé, mais il y a de magnifiques remparts, et il y a aussi un donjon, dont il reste le premier étage. Et il y a également l'objet de notre chantier de cette année, qui sera la collégiale Saint-Léonard. C'est les vestiges d'une ancienne église qui se situe à l'extrémité du château, et elle est sous des bâches depuis 30 ans. Et depuis les fouilles archéologiques qui ont eu lieu entre 1983 et 1991, elle n'a pas été touchée. Donc elle se dégrade, il y a de la végétation qui pousse dessus. Et on s'est dit... À un moment, on faisait visiter le château au départ, nous, avec Marie-Camille et d'autres personnes de l'association, notamment aux Journées du Patrimoine. Et à force de faire visiter le château, alors on fait le visiter tous les 3e dimanche du mois, si ça vous intéresse aussi.
Oui, d'accord.
Et à force de faire visiter le château, on s'est rendu compte de sa dégradation. Et on s'est dit, avec la mairie, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la mairie s'est posé la question également. Et c'est là qu'on a invité des spécialistes, et on nous a dit, bah, pourquoi pas un chantier de bénévoles. Alors, on ne savait pas ce que c'était. On a été voir les gens qui s'y connaissaient, c'est-à-dire Rempart, et ils nous ont dit, bah, si vous voulez vous lancer là-dedans, on vous donne la marche à suivre et ensuite à vous de jouer.
Ouais.
Et c'est ce qu'on a fait, et ça fait 2 ans que ce chantier a lieu. Et ces chantiers de bénévoles, comment ça fonctionne? C'est des chantiers qui durent 2 semaines environ, qui accueillent des groupes d'une dizaine de personnes, de tout âge, de toute origine. C'est des chantiers internationaux, hein, je précise. L'année dernière, on a reçu un jeune Syrien et une jeune Allemande. Et c'est vraiment des chantiers qui visent à la fois à transmettre des savoir-faire, mais également à transmettre des savoir-être, puisque Rempart, c'est une union d'associations de préservation du patrimoine et de valorisation du patrimoine, de restauration de monuments, mais également un grand mouvement d'éducation populaire, puisque l'idée, c'est de sensibiliser les gens au patrimoine, tout en les rendant des citoyens du patrimoine, c'est-à-dire que en se disant que ces monuments, on se l'approprie, on a envie de le soigner comme si c'était le château était un habitant de la ville qui méritait notre attention, et surtout on le fait de manière collective, c'est-à-dire que on le fait pas juste pour le plaisir de restaurer le château, on le fait parce que il doit rendre service à la collectivité. Et quelle est notre idée derrière? C'est que ce château soit ouvert et permette aux gens de s'épanouir à la fois culturellement, mais aussi par des actions qui peuvent être très diverses. Ça peut être du sport, ça peut être des actions de découverte, par exemple des métiers du patrimoine, ça peut être également des stages d'entreprise, enfin tout est possible.
Oui, c'est tout. Le but, c'est de transmettre aux générations présentes et futures ce trésor.
Absolument. Mm-hmm. Et d'en faire également un lieu à la fois où s'épanouissent les gens et l'environnement, puisque la particularité du château de Beaumont, c'est son côté végétal. C'est-à-dire que ça fait quand même 3 siècles qu'il est en ruine. Donc ça a eu le temps de pousser. Et on a au château de Beaumont une extraordinaire pelouse calcicole avec des orchidées, avec des arbres qui ont été plantés au 19e siècle par les anciens propriétaires, mais qui sont assez jolis, qui alimentent une biodiversité au sein du château. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de valoriser et de rendre sensible. C'est-à-dire que il y a aussi le côté alimenter l'imaginaire des gens par le plaisir qu'on a juste à se balader dans un lieu qui fait à la fois rêver et dans lequel on peut apprendre des choses.
Donc on comprend que vous n'en avez pas terminé avec ce château, mais pour le plus grand bonheur de tous.
Hein, on en a au moins pour 40 ans chantier là-dessus. On est actuellement avec la mairie en train de lancer une étude préalable, donc on est très content parce qu'il y a des nouvelles étapes vont être franchies. Et puis j'en profite, j'ai entendu les initiatives parler, et nous on a aussi un programme avec Rempart qui s'appelle Action Patrimoine et Lien Social, puisque c'est très important pour nous aussi de montrer que ce patrimoine n'est pas réservé seulement à des gens qui s'y intéressent par passion ou qui sont une élite, qui s'y connaissent, mais qui serait ouvert à tout le monde, y compris les gens qui pensent que c'est pas forcément le lieu où ils devraient être.
C'est ça, oui.
Alors que nous, on leur montre que si, c'est tout à fait un lieu où ils sont les bienvenus, ils sont bien accueillis, et nous, on accueille des jeunes en insertion avec l'association Image, qui permet de valoriser le château et de découvrir également ces lieux-là. Alors, on travaille également avec la Croix-Rouge, on travaille... alors maintenant, il n'y en a plus trop, enfin, il y a des problèmes, mais on travaille avec la mission locale et les écoles de la deuxième chance. Mmh. On a reçu des élèves de l'école de la deuxième chance du Val d'Oise. Et souvent, ça se passe extrêmement bien. Enfin, vraiment, c'est des gens qui... découvrent
qui se découvrent même peut-être une vocation
tout
parfois.
À fait, je peux prendre un exemple d'un jeune qui venait d'une mission locale et qui ensuite a passé une formation de tailleur de pierre
d'accord.
Au château de Coucy en Picardie.
Ah, c'est le bonheur. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper la parole, Jérémy, parce que l'heure avance, mais vous savez que vous avez porte ouverte chez IDFM Radio. Pour l'heure, on reparle de cette conférence de Beaumont à Conflans à l'époque médiévale qui aura lieu ce vendredi 16 à 20h à Beaumont.
Et c'est vraiment, si vous vous intéressez à l'histoire de la circulation sur l'Oise aux ponts, tout simplement, à l'histoire des ponts, toutes les villes au bord de l'Oise ont un pont, et ben allez-y, on va parler de Beaumont, l'Isle-Adam, Méry, Pontoise et Conflans et Neuville.
C'est ça, et donc c'est une conférence qui aura lieu à la Maison des Associations Jacques Laridan, salle 12, 1 avenue du Quesnel, à Beaumont-sur-Oise.
Tout à fait.
Des coordonnées qui se retrouveront sur le podcast, bien évidemment. Merci beaucoup, Jérémy David, d'avoir pu venir ce matin pour présenter cette conférence.
Merci beaucoup.
On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
La última vez, Nokia, amont.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu, siento, quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toma mi canción. Ha hecho un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises.
Kenji Vianney sur IDFM Radio, merci d'être resté avec nous à l'antenne pour l'économie en direct, une émission consacrée ce matin à l'économie sociale et solidaire, la découverte du patrimoine, la transition écologique, le recrutement, mais aussi le salon Effervescence. Et tout cela en présence de Sandra Bittel, conseillère entrepreneuriat engagée chez Initiative 95-78, Jérémy David, secrétaire du Cercle Beaumontois du patrimoine, administrateur au groupe Rempart Île-de-France, Aurélie Tourette, fondatrice de Eco Actitude, exposante le 19 mars au Salon Effervescence, et Marc Wempossi, fondateur de Prit, et comme Aurélie, participant le 19 mars au Salon Effervescence. Et j'enchaîne tout de suite avec vous, Aurélie Tourette.
Bonjour.
Rebonjour. Donc fondatrice d'Eco Actitude. Alors Aurélie, vous n'avez pas toujours été dans cette dimension, même si c'était un petit peu une vocation hein, d'être dans l'économie sociale et solidaire aussi quelque part, puisque vous avez un bac, un BTS commercial international, un bac plus 5 transport logistique et commerce international, une certification en cosmétique naturelle et bio. Voilà, un parcours qui semble au départ, peut-être pas la cosmétique, mais qui semblait loin au départ de votre entreprise.
Tout à fait, effectivement. Moi, je suis partie dans le commerce international et puis donc j'ai poursuivi dans le transport et la logistique et ensuite j'ai fait 10 ans dans la coordination logistique d'œuvres d'art.
D'accord.
C'était vraiment un domaine passionnant.
Oui.
Mais voilà, au bout de 10 ans, j'avais quand même cette volonté de faire vraiment mon entreprise et d'avoir un impact aussi sur la société. Alors moi, du coup, depuis, je suis engagée depuis l'âge de 18 ans au WWF, où je suis bénévole, je réalise des missions de sensibilisation. Et je le suis toujours.
Oui.
Donc déjà, j'avais à cœur la protection de l'environnement. Et puis, il y a 7 ans, quand mon fils est né, j'ai commencé à fabriquer à la maison mes cosmétiques et mes produits d'entretien naturels. Donc, j'ai fini par tout remplacer naturellement dans la maison. Et je me suis dit, bah, comment je peux avoir un impact, en fait, comment je peux sensibiliser de façon ludique autour de moi. Et ben voilà, en apprenant aux gens ce que moi j'ai appris à faire toute seule. Donc c'est notamment donc à leur apprendre lors d'ateliers à fabriquer leurs cosmétiques et leurs produits d'entretien et autres créations nature à base de récup. Voilà,
donc une vraie reconversion.
C'est vraiment une vraie reconversion pour le coup. C'est vrai que c'est pour ça après que je me suis formée quand même à la cosmétique naturelle en 2022 avant de commencer, parce que voilà, je voulais être quand même légitime dans ce nouveau poste et dans cette entreprise. Et c'est passionnant et je suis très contente d'avoir sauté le pas.
Vous avez l'air très épanouie. On sent que vous vous éclatez. Vous vouliez nous expliquer, par exemple, en quoi consistent les ateliers zéro déchet. C'est important, ça?
Oui, tout à fait. Zéro déchet, effectivement. Donc, bah, c'est comme je disais... apprendre aux gens à
fabriquer. C'est possible, zéro déchet.
Alors, c'est pas possible, zéro déchet. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise pour parler de la réduction des déchets. Après, le zéro déchet est clairement impossible parce que de toute façon, même si on achète en vrac, il y aura toujours des déchets qui auront été produits. Mais voilà, on utilise ce terme aujourd'hui. Et voilà, moi, c'était vraiment mon combat, en fait. C'est mon combat même dans mon quotidien.
C'est un mode de vie.
Voilà, c'est un mode de vie, exactement. Et le but, voilà, c'est en faisant leurs cosmétiques et leurs produits d'entretien, bah, les gens vont réutiliser les contenants de toute façon. Et puis ne pas racheter des emballages qui vont être jetés à la poubelle dès qu'on les aura finis. Et c'est aussi pour ça que j'ai aussi intégré des ateliers de récup, notamment on va faire des mini terrariums dans des bocaux tout simplement, ou encore des ateliers un peu d'upcycling où on va fabriquer un tote bag avec un ancien t-shirt. C'est dans le but vraiment de réduire les déchets.
Donc votre entreprise, comment fonctionne-t-elle? C'est-à-dire vous avez un endroit précis ou c'est vous qui vous déplacez? Comment ça fonctionne?
Non. Alors j'ai pas d'endroit, j'ai pas de local, c'est moi qui me déplace effectivement. Alors je travaille avec
sous forme de formation un petit peu.
Oui, c'est un atelier de cohésion en fait. Ça peut être avec chez des particuliers pour des événements précis. Ça peut être un anniversaire enfant ou un enterrement de vie de jeune fille où on veut faire un petit atelier.
C'est très large.
Voilà, ça peut être entre 1 heure et 2 heures. Donc là, les gens peuvent prendre rendez-vous sur mon site internet pour programmer l'atelier. Et après, bah, je travaille avec les entreprises aussi pour des team building par exemple. Où là, on va faire, alors soit en atelier libre où les gens passent et ils viennent faire leur cosmétiques, ils repartent après, ou alors on va avoir un groupe de 10 à 20 personnes autour de la table qui vont faire en même temps leurs cosmétiques. Généralement, ils sont en binôme, comme ça renforce un peu les liens. Et surtout, je travaille beaucoup avec les collectivités. Voilà, toutes les mairies, centres d'action sociaux, écoles, médiathèques. C'est vraiment mon plus gros client. Et je me déplace un peu dans toutes les villes.
Vous avez su gérer toute cette partie commerciale, puisque c'est le but, hein,
c'est l'avantage d'avoir fait du commerce
avant. C'est ça.
Effectivement, ça me sert encore aujourd'hui. Mais j'ai pas, finalement, j'ai pas, la tâche n'était pas très compliquée parce que je suis dans un domaine où on n'est pas beaucoup en fait à faire ça.
Oui.
Et effectivement, il y a aussi de la demande. Mmh, mmh. Beaucoup d'entreprises et de mairies ont un objectif de développement durable maintenant. Donc, ça les intéresse. Et j'ai envoyé quelques mails en fin de compte et tout de suite
ça a pris.
En fait, les gens me répondent.
Bravo.
Des fois, j'ai même pas à téléphoner. Donc, non, c'est assez fou. J'ai créé que en avril dernier. Et finalement, ça s'est très très bien développé en fait.
C'est ça, vous parlez d'une croissance très rapide. Oui. Et donc, le but quand même d'une entreprise, c'est d'en vivre et de faire quand même des bénéfices. Est-ce que c'est le cas pour
alors,
vous
alors là, pour l'instant, pas tous les mois, mais oui, il y a certains mois déjà où je pourrais en vivre, alors que ça fait moins d'un an. Et j'ai la chance là d'être aussi de toucher le chômage en même temps, puisque
d'accord.
J'ai fait avant de me créer mon entreprise, j'ai fait la démarche de démission. Création avec Transition Pro et Pôle Emploi. Donc pendant 18 mois et voire plus.
Oui, vous avez le temps d'engranger.
Voilà, j'ai le temps exactement de me faire connaître déjà. Parce que voilà, maintenant il faut que j'ai le plus de visibilité possible, mais je suis certaine que je vais pouvoir en vivre.
Oui,
ça,
vous êtes de toute façon, vous y croyez, donc on a l'impression que ça c'est le moteur.
Oui, oui, exactement.
Complètement.
Non, j'y crois vraiment et puis je vois que ça plaît aussi.
C'est ça.
Tous les participants.
Il y a une vraie synergie. Aussi.
Exactement.
Alors, je parlais au début de la présentation de l'émission que j'avais fait une superbe découverte et c'est vrai qu'en j'ai découvert quand je suis arrivée à votre cas, puisque je prépare mes dossiers l'un après l'autre, que vous aviez été candidate à Émergence.
Exactement.
Donc une belle correspondance avec Sandra.
Oui.
Et puis surtout, vous allez pouvoir nous en parler du côté candidat.
Exactement. Donc, j'ai été lauréate l'année dernière. Donc
En plus, lauréate.
Voilà, c'est tout récent. On était un groupe de 10, je crois qu'on était 10, voilà. Et en fait, on a pu bénéficier d'un accompagnement de 9 mois pour la création et le développement de notre entreprise. Donc moi, ça m'a vraiment aidée parce qu'à la base, j'étais pas partie sur ce projet-là, en fait. Moi, j'étais rentrée à Émergence. J'avais un projet d'ouvrir un concept store éco-responsable, basé sur le vrac et de la seconde main de vêtements. Et finalement, ce programme, au fur et à mesure, qu'on avait des ateliers, on avait un accompagnement aussi individuel. Donc finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le moment en fait de lancer un concept store.
A ouvert les yeux sur certaines difficultés possibles.
Voilà, sur certaines difficultés, trouver un local, des choses comme ça. Et je me suis dit, il faut que je revoie mon concept et qu'est-ce que je peux faire sans local, en fait. Et puis, c'est me déplacer et faire les ateliers chez les autres, en fin de compte. Donc ça, c'était un vrai bouleversement aussi dans mon projet. Mais ça m'a permis de faire ça, de réfléchir à ça.
Aujourd'hui.
Ah non, sans aucun regret, vraiment pas.
Au contraire. Ouais.
Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Émergence, c'est que c'est vraiment tourné vers l'économie sociale et solidaire. Parce qu'autant j'avais fait 5 jours pour entreprendre, donc à la CCI, qui est une petite formation pour apprendre à créer son entreprise. Mais c'était pas tourné vers l'économie sociale et solidaire. Donc là, on avait des choses en plus qui étaient très bénéfiques. Et au-delà de ça, on a gardé des liens aujourd'hui avec le groupe aussi, le groupe de 10, et on s'entraide toujours.
Voilà.
Même après quelques mois
après. Toujours c'est formidable.
C'est super parce que c'était des super projets tous et on a envie de suivre l'évolution des autres aussi.
Oui, puis de parler de ses propres succès et de savoir comment vont les autres.
Voilà.
Une super promotion pour Émergence, Sandra,
en effet.
Voilà, mais écoutez, c'est le hasard qui fait bien les choses puisque je ne le savais pas au départ. Et puis donc, l'autre nouvelle, donc, c'est que vous allez participer au Salon Effervescence et vous êtes même candidat au concours Impact 95.
Oui, voilà, je me suis lancée ce petit défi. J'ai vu qu'il y avait un concours.
On vous arrête plus.
On ne m'arrête plus là. Je me suis dit cette année, c'est l'année de la visibilité. On va se montrer un peu partout. Et puis effectivement, je me suis dit pourquoi pas le concours aussi Impact. Parce que je pense que j'ai déjà pas mal d'impact aussi. Là, j'en suis à 1090 70 personnes sensibilisées depuis l'année dernière. Donc, je me dis, ça peut être pour moi.
Hein. Complètement, complètement. Bah, écoutez, voilà. On s'y retrouvera parce que IDFM Radio est toujours présent pour Effervescence. Donc, ce rendez-vous incontournable, hein, il faut que j'en dise un mot quand même, de l'économie et de l'innovation du territoire est soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie et puis la plupart des réseaux d'entreprises du Val d'Oise. Donc, toujours un très, très bel événement qui ne cesse de grandir et même de s'exporter maintenant en France. Merci beaucoup Aurélie Tourette ce beau dynamisme et cette belle énergie. On vous souhaite d'être lauréate à Impact 95.
J'espère.
On va suivre ça de près.
Merci pour l'invitation en tout cas.
Merci à vous. Christophe, on juste un jingle peut-être pour donner un peu plus de temps à Marco Impossi. Late night, you and I, post fight, it's my life, last roll, desert drawer, I'm all four, I watch you walk away, it's just another day, don't need you to stay. Si vous nous rejoignez, c'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Je suis toujours en compagnie de Sandra Bittel, conseillère entrepreneuriat engagée chez Initiative 95-78, Jérémy David, secrétaire du Cercle Beaumontois du Patrimoine, administrateur au groupement Rempart Île-de-France, Aurélie Tourette, fondatrice d'Eco Actitude, exposante le 19 mars au Salon Effervescence et qui a été lauréate aussi au programme Émergence d'Initiative, et Marco Impossi, fondateur de Prit et comme Aurélie, participant le 19 mars au Salon Effervescence. Marco Impossi, merci d'avoir patienté. Donc, fondateur et président de Prit, déjà, pourquoi cette raison sociale, Prit?
Alors, donc PRIT, nous avons PRIT, donc
c'est ça,
plateforme pour recrutement IT.
Voilà, très
c'est
bien.
C'est-à-dire que à la création, l'idée c'était en fait de recruter autour des métiers de l'informatique, puisque le besoin était très croissant au niveau des entreprises, surtout après la phase Covid.
Oui.
Donc c'est ça un peu le cœur de métier au tout début. Et là maintenant, nous développons une expertise autour des métiers de l'aéronautique et de l'espace.
Tout ça, vous êtes donc un recrutement très ciblé.
C'est cela.
Vous-même, vous venez de quelle formation, Marco ?
En fait, moi, je suis diplômé de l'ISG, hein, l'Institut supérieur de gestion à Paris.
Oui.
Et là, j'étais dans la formation RH, talent RH et Big Data.
D'accord.
Et en parallèle de mes études, en fait, j'ai eu la chance, en fait, de travailler un peu dans les DSI.
Oui. Hein,
en stage d'alternance. Chez Société Générale d'abord, hein, à Val-de-Fontenay, dans les Dunes, qui est donc la DSI Group, chez Vinci, chez Engie, hein, à La Défense.
Donc des gros comptes,
oui. Donc ça permet quand même, autour des métiers de l'informatique, j'ai bien béni dedans en fait. Mmh. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller dans ce secteur que je comprends un peu mieux à côté de mes études en fait.
Donc pour vous, créer Pred, c'était une évidence.
C'est cela.
Ouais.
C'est cela. Et puis, tout en sachant, il faut quand même rappeler le contexte. Hein. Je ne serais jamais entrepreneur si la pandémie n'était pas arrivée.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'en pleine pandémie, j'avais plein de copains qui savaient que moi, j'étais en ressources humaines. Donc, ils venaient systématiquement me contacter,
ouais.
me demander des avis sur leur CV, sur comment préparer leurs entretiens. Et en pleine pandémie, j'ai aidé des gens en fait, qui trouvaient des stages, des apprentissages, des CDI même. Donc, ça fait que j'ai même créé une association avec ces copains-là, en fait, qu'on appelle Études d'emploi. Pour pouvoir accompagner les étudiants dans leur démarche de recherche. Et avec cette association, nous avons même planté des jeunes plants d'arbres à Cergy.
Ah oui, j'ai vu que vous aviez un impact environnemental dans votre entreprise, en effet. Oui.
Donc ça fait que l'idée est vraiment partie de là, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de dérives. Hein, il y a les membres de l'association qui venaient me voir pour me dire, tiens, je tiens en entretien, mais le recruteur a déchiré mon CV. Donc il y avait plein de dérives en pleine pandémie. Donc je me suis dit, mais comment, moi, en tant que spécialiste des ressources humaines, je peux apporter ma contribution pour essayer de pallier un peu toutes ces erreurs. Et puis, apporter plus de professionnalisme et puis faire quelque chose qui a du sens, hein, pour
bien sûr.
Tout le monde, être au cœur de l'emploi des jeunes.
Donc et aujourd'hui c'est aucun regret d'avoir créé l'entreprise. Vous êtes ça fonctionne bien.
Oui, ça avance petit à petit, puisqu'on accompagne déjà nos premiers clients à Paris par exemple, à Lyon, dans les Hauts-de-France, en Normandie.
Vous êtes à travers toute la France.
Oui, on est en train de se développer petit à petit. Donc, dans un premier temps, je me suis appuyé sur une équipe d'apprentis, hein, puisque pour moi, les jeunes, c'est fondamental. Il faut leur donner la chance de s'affirmer.
C'est ça.
Et puis, petit à petit, pourquoi pas aller plus loin, en fait.
Oui, vous structurez autrement et puis aller plus loin. Votre devise, c'est la pénurie de talent n'existe pas.
C'est cela. Pourquoi ? Parce que de nos jours, c'est un sentiment personnel, hein, que les recruteurs... où tout le monde a tendance à se cacher un peu derrière toutes ces formules un peu type généralisées comme ça, la pénurie des talents, comme si cela pourrait justifier le fait de ne pas avoir de candidats, de ne pas accompagner à la montée en compétences. Moi, je pense que dans tout métier, il y a de l'apprentissage. Hein, on peut apprendre, il y a une première expérience, il y a une première fois qu'on fait une chose, et à force de faire et refaire, on devient compétent. Donc, dire qu'il y a une pénurie de talents en France, avec toutes ces écoles qu'il y a, avec tout ce savoir-faire qu'il y a en France, c'est quand même hallucinant pour moi, en fait.
Oui. Donc, ça va être un de vos leitmotiv pour Prit. Un de vos outils, c'est l'intelligence artificielle.
Oui, en fait.
Donc, expliquez-nous ça.
En fait, nous avons développé avec notre partenaire Christophe Saint-Denis de Dreamaway à Herblay.
Oui, qu'on connaît bien aussi.
Voilà. Donc, lui, en fait, a un atelier de tout ce qui est autour... Enfin, c'est autour de la réalité virtuelle.
Oui.
Donc, nous avons échangé, mais pourquoi pas, en fait, faire en sorte que nos candidats, dans le cadre de tout ce qui est assessment, test... le vocabulaire du candidat, plein d'autres éléments, pour aussi une façon de pallier, hein, certains éléments de discrimination, parce que la discrimination prend profane, il pense qu'elle est...
Parlez bien en face du micro, Marco.
Alors, je disais tout simplement que derrière cette idée d'intelligence artificielle, puisque on est sur du deep learning, par la réalité virtuelle, l'idée c'est de pallier... plein de défauts de recrutement, tels que les biais cognitifs, les biais liés à la discrimination, par exemple. La discrimination qui, pour un profane, n'est que raciale, hein, alors que la discrimination, elle peut être géographique, mais il peut y avoir plein d'éléments.
Oui.
Donc ça, c'est des éléments que l'intelligence artificielle peut identifier sans a priori, Voilà. Et derrière, on a donc un rendu hein, avec toutes les données, la qualité de la prestation ou de l'expression du candidat pour pouvoir, en toute transparence, voilà, apprécier si le candidat peut tenir ou pas au regard des exigences du poste.
C'est ça. C'est-à-dire que dans votre cas, puisque j'ai pu lire aussi dans votre brochure que avec l'humain au cœur de notre stratégie de développement, privilégie le management participatif pour donner du sens au travail. Vous voyez, j'ai bien bossé, hein. Et donc,
bravo, Jacqueline.
C'est là où on comprend que l'intelligence artificielle, en fait, elle est justement parce que intelligence artificielle, c'est on le met à toutes les sauces hein, aujourd'hui. Oui. Et donc là, vous, c'est vraiment pour privilégier l'humain.
C'est cela. Mmh. C'est cela. Donc, pour venir aussi en soutien à ce que nous faisons en tant qu'humains, pour se dire que voilà, l'idée, c'est vraiment de pallier certaines erreurs qui sont susceptibles hein, d'être constatées dans les process de recrutement, hein, puisqu'il y a plein de candidats qui se plaignent, voilà, qui peut dire non, tiens, moi j'ai été discriminé, mais quand il y a quand même un rendu hein, avec un outil qui tout de suite analyse la qualité de l'expression, par exemple, il n'y a pas à dire que tiens, c'est le recruteur qui m'a discriminé, par exemple.
C'est ça. Et en plus, l'intérêt, je pense, de DreamAway, c'est que voilà, c'est ludique, enfin c'est très attractif.
Hein. Voilà. Mm. Et on ne se rend pas compte en fait. Hein, tous les candidats qui sont passés chez Christophe Saint-Denis dans ce sens, voilà, étaient bien bluffés par ça, hein, par ce concept.
Donc, vous pouvez nous donner un exemple précis entre votre partenariat entre vous et DreamAway.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, en fait, on arrive. Hein, le candidat est là, il est accueilli en fait par voilà l'équipe DreamAway hein, de Christophe Saint-Denis. Et là, en fait, on explique déjà hein, au candidat le concept. À quoi ça va ressembler. Donc, ça peut être un elevator pitch
oui.
devant une personnalité très connue, comme Barack Obama, par exemple. Hein.
Oui, d'accord.
Et là, en réalité virtuelle, effectivement, on est en face de la personne et tout de suite, il faut... Voilà.
Oui, il faut se mettre au diapason.
Il faut pitcher tout de suite et donc lui dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. Enfin, dire un peu en un laps de temps très court, hein, puisque c'est, je crois, 55 secondes hein, maximum.
D'accord.
Et là, en ce temps-là, en fait, il faut... Et derrière, l'outil analyse tous les éléments. Voilà.
Il y a quand
même langage, par exemple.
Oui, mais il y a forcément un stress qui se manifeste.
Alors, ce qui est bien, c'est que et l'équipe DreamAway précise toujours au départ que l'idée, c'est pas voilà, on ne vous juge pas à partir de ça. Ça nous permet juste d'analyser en fait. Et le candidat a la possibilité de passer jusqu'à 4 tests, hein, enfin.
D'accord.
Jusqu'à 4 fois, hein, jusqu'à ce qu'il se sente
mieux
et qu'il dise que, tiens, oui, ce rendu-ci me convient parmi les 3 que j'ai fait, par exemple, je préfère le dernier ou je préfère le deuxième. Voilà. Et là, en fait, on prend celui-là. Et celui-là, en fait, c'est celui-là qui est analysé, qui est donc envoyé au client, parce que le client doit avoir une visibilité.
Oui.
Et le candidat lui-même aussi doit avoir une visibilité sur son rendu, en fait, sur les résultats du test.
Voilà. Et donc, avec cette méthode, vous avez un taux de réussite important ?
Franchement, ça permet quand même de réduire les erreurs.
Oui.
Et surtout, moi, en tant qu'initiateur de ce projet-là, je me dis que ça permet aussi aux candidats de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination.
C'est
en fait.
Ça, oui, oui.
Voilà.
C'est vraiment votre objectif.
C'est cela.
Parce que très souvent, on peut penser, oui, j'ai pas été pris parce que, j'ai une sale gueule ou n'importe quoi. Là, ça élimine tout ce pan-là.
Tout de suite.
Très bien. Donc, vos prochains projets, c'est quoi, Marco?
Alors, principalement, il y a le salon d'effervescence, puisque nous allons animer notre stand premium.
Ce sera la première fois?
Non, la deuxième fois.
Deuxième fois, oui.
Oui. Donc, et puis derrière, ce concept pour nous, c'est aussi d'activer notre levier un peu de potentiels clients dans le Val d'Oise, hein, puisque le Val d'Oise.
Oui, de mieux vous.
Nous sommes basés à Cergy.
C'est une belle vitrine, hein,
voilà.
pour rencontrer d'autres contacts, oui.
C'est cela. Donc, c'est pour ça que nous tenons à inviter, en fait, les potentiels clients, hein, qui ont des besoins en recrutement autour de l'informatique, autour des métiers de l'aéronautique, autour des métiers de l'espace. Voilà, parce que nous avons des partenariats, avec des écoles, bien spécifiques pour cela.
Très bien. Bah écoutez, Marco, bravo hein, pour cette belle initiative.
Merci.
Finalement, merci Covid.
C'est cela. À quelque chose malheur est bon, comme on dit.
C'est ça. Et donc, alors, je n'ai pas précisé que vous étiez labellisé Made in 95, comme IDFM Radio, absolument.
Oui.
Et puis, vous revendiquez comme ça votre appartenance au tissu économique du Val d'Oise, mais on a compris, pas que, puisque vous êtes à travers toute la France.
C'est bien cela.
Vous êtes combien maintenant chez Prit?
Alors, en ce moment, donc, nous sommes deux.
Oui.
Mais l'idéal, c'est d'aller... nous préparons un troisième recrutement qui est en
D'accord.
cours. Donc, si tout va bien, au plus tard, la fin de l'année, ça sera quelqu'un qui pourra nous rejoindre en CDI.
Très bien.
Voilà.
Bon, bah, écoutez, longue vie à Prit.
Merci.
On vous souhaite. On arrive presque à la fin de notre émission, mais pas tout à fait, puisque vous le savez, j'aime bien redonner la parole à mes invités l'un après l'autre. Donc Sandra, je vous laisse ouvrir le feu pour cette conclusion.
Ben, moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je trouve que IDFM va dans le même sens qu'Initiative. En fait, dans les deux cas, on désire promouvoir et développer le territoire, participer au dynamisme du territoire, et je trouve que c'est une belle réussite. C'était très agréable de fonctionner ensemble du coup sur cette émission.
Bah écoutez, merci Sandra, ça me touche, et d'autant que je peux dire, je le redis, que Initiative a vraiment été à nos côtés d'une façon très très importante quand on a eu nos petits soucis. Voilà,
avec plaisir.
Je suis émue. Merci Sandra, merci à vous. Jérémy David, je crois que vous aviez une annonce à nous faire pour Mardi Gras.
Alors j'ai deux appels.
Deux appels.
D'abord, quelque chose de très important pour nous, c'est on organise aussi un concours de nouvelles avec le Lions Club de l'Isle-Adam.
D'accord.
Donc c'est ouvert à tout le monde. Et vous pouvez, donc c'est un appel à candidature, tous ceux qui voudraient écrire, toutes ceux et toutes celles qui voudraient écrire, peuvent nous écrire jusqu'au 18 mars à l'adresse du Cercle Beaumontois du Patrimoine, donc cerclebp@gmail.com ou nouvellecbp@gmail.com. Enfin, en tout cas, vous retrouverez tout ça sur notre Facebook.
Oui.
Et le thème de cette année, le thème du concours de nouvelles, c'est par-delà les frontières, au-delà des frontières. Et je vous invite vraiment, si vous avez envie d'écrire, on vous envoie le règlement et
si on a si on considère avoir un certain talent dans l'écriture,
pas,
même pas.
Juste pour le plaisir, écrire une nouvelle, c'est avec des contraintes qui sont en fait extrêmement stimulantes.
Oui, oui.
Donc c'est quelque chose où vous pouvez rêver. En plus, c'est un thème très large, au-delà des frontières. En ces temps, dans les temps qui courent, ça fait du bien aussi d'aller un peu au-delà de nos horizons. Et voilà. Alors le deuxième appel, c'est un autre appel. Alors là, c'est encore plus important. C'est un point de vue stratégique pour nous, c'est le chantier. C'est-à-dire que si vous êtes entreprise et que vous souhaitez soutenir le chantier de Beaumont, qui est une initiative à la fois solidaire, écologique, éducative et patrimoniale, donc vous pouvez faire un don à Rempart sur rempart.com. Les entreprises sont exonérées fiscalement à 66%.
C'est donc, ça. Oui, c'est reconnu d'utilité.
C'est reconnu
publique.
D'utilité publique.
C'est
donc
ça.
Vous pouvez tout à fait faire un don là-dessus. Et je terminerai juste un dernier petit mot, vu qu'on est Mardi Gras. Je suis personnellement, là, je parle en mon nom, spécialiste de Rabelais, François Rabelais, qui est un auteur du XVIe siècle français. Et il a très mis en avant Mardi Gras, notamment dans le quart livre. Et dans les chapitres 39 à 42, vous pouvez trouver un magnifique épisode de la guerre des andouilles et de carême prenant. Et les andouilles sont les filles de Mardi Gras.
Oui.
Et ça se passe très mal pour les andouilles. On est au bord du génocide. Donc c'est assez terrible. Et au final, elles sont sauvées par Mardi Gras. Donc aujourd'hui, alors qu'il y a des conflits assez meurtriers dans le monde, je pense que l'esprit de Mardi Gras devrait un peu tomber sur nous.
Oui, devrait être une pause dans le monde entier. Merci beaucoup, c'est un très joli message. Merci infiniment, Jérémy David. Aurélie Tourette, un mot de conclusion.
Eh ben merci pour l'invitation. Voilà, c'est la première pour moi aujourd'hui à la radio, donc
vous en êtes très bien sorti.
C'était une super expérience et j'étais ravie de découvrir les autres participants également et leur histoire. Et puis ce que je voulais dire, c'est que moi je partage toutes mes astuces zéro déchet, transition écologique sur mes réseaux sociaux, donc Ecoactitude sur Instagram et Facebook, et également sur mon site internet où j'ai une partie blog, donc www.ecoactitude.com.
Très bien.
Et voilà, je vous invite à découvrir tout ça et je vous retrouve donc le 19 mars, au salon Effervescence.
Sur les réseaux sociaux où on est aussi très, très présent. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Marco Ercosi, un mot de conclusion.
Alors moi, pour conclure, j'aimerais juste dire merci déjà à l'équipe IDFM Radio.
Hein. Christophe, on vous remercie.
Incontournable des médias, du média dans, du monde du média dans le Val-d'Oise. Et à côté, oui, enfin vous l'êtes hein, déjà.
Ouais,
et aussi remercier donc les personnes qui me soutiennent, hein, donc peut-être Monsieur Richard Folio de RCM Conseil, qui est mon conseil spécial.
D'accord.
Il y a Marthe Trivisani Cornu de Marthe Trivisani Conseil, Tadjal Migdad de Kouchinov, Isabelle Chauvet de la CCJ Val-d'Oise.
Oui.
Et surtout, Monsieur le Directeur Général de l'IAG, Monsieur Thierry Sebag.
Merci en tout cas à tous d'avoir si bien témoigné. Merci Christophe pour la technique. Merci à tous nos auditrices et auditeurs pour leur fidélité. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le site et l'appli de IDFM Radio. Je vous dis à vendredi prochain, 16 février, avec une spéciale 60 000 rebonds. D'ici là, bonne journée et belle semaine.